La fête dans l'Occident médiéval, 12e-15e siècle, c'est le thème de la conférence de Béatrice Leroy, professeure d'université, conférence enregistrée le 10 novembre 2017 au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Bayonne. La fête dans l'Occident médiéval, Béatrice Leroy.
La fête, on a toujours besoin de penser à autre chose qu'au travers de la vie courante, aux difficultés. On a besoin de la fête et on le dit, les plus intellectuels, les plus organisés de l'époque médiévale ont tous su dire que on avait besoin de récréation. Le terme était employé. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, le dit très joliment. Je vous dis une ou deux phrases. Il faut à tous le repos de l'âme. Le repos de l'âme, c'est le plaisir. Il faut remédier à la fatigue de l'âme en s'accordant quelques plaisirs qui interrompent l'effort de la raison. Ces paroles et actions où l'on ne recherche que le plaisir de l'âme s'appellent divertissement et récréation. Il est donc nécessaire d'en user de temps en temps comme moyen de donner à l'âme un certain repos. Et il continue ce joli développement en disant que cette récréation est semblable à un bouquet d'herbes odoriférantes et des sucs que l'on ajoute à la nourriture. Il faut en user parce que cela donne du piment donc, et de la couleur et du goût à cette nourriture. Mais avec modération, il va le répéter constamment. Et en effet, nous allons le voir, la fête est nécessaire, la récréation, on peut tout mettre derrière ce terme de récréation est tout à fait nécessaire, mais l'Église, les pouvoirs, qui d'ailleurs usent et abusent, on peut dire, de cette récréation, donc savent également transcrire par toutes sortes d'interdits, avec une inspection, avec une présence, pour voir si on ne va pas trop loin. Donc, ce qui est poussé à l'extrême et qui pourrait être donc tout à fait décommandé. Il faut savoir surtout que ces fêtes, la fête en général, et au fond, toutes les rencontres sociales et amicales s'adressent à toutes les sociétés confondues. Nous avons évidemment des fêtes royales, des fêtes liturgiques de l'Église, des fêtes aristocratiques, mais nous avons à peu près constamment des fêtes populaires, et au cœur même de ces fêtes royales, de ces fêtes de l'Église, une très large participation du peuple, ce qui est tout à fait souhaitable, ce qui est recherché. On invite, on ouvre les portes, on régale, on offre, car on en parlera un jour, ce sera raconté à l'extérieur, on pourra évidemment soigner, nous dirions aujourd'hui, notre publicité, la publicité, évidemment le terme n'existe pas, mais la notion existe bien, pour transporter par-delà les frontières, ainsi, la qualité de la fête du roi de France, la qualité de la fête du grand seigneur de Castille ou du grand seigneur de l'Angleterre, et savoir comment l'imiter, comment agir ainsi. Ces fêtes s'adressent en général à un public illettré. Illettré, c'est-à-dire, au sens exact du terme, un public qui ne connaît pas le latin. La fête liturgique de l'Église, très longtemps, se célèbre en latin. Mais dès le XIIIe et XIVe siècle, pas dans tous les royaumes ni dans tous les diocèses, mais à peu près partout, on voit que la langue véhiculaire, la langue populaire, remplace progressivement ce latin. De même, évidemment, dans les cours tenus par des laïcs, les cours aristocratiques. Certes, les seigneurs sont éduqués au latin depuis l'enfance par un clerc qui est demandé par le Seigneur, mais le Seigneur, par la suite, a autre chose à faire qu'à lire son latin, donc il l'oublie peu à peu, et au XIIIe, XIVe, XVe siècle, on voit la nécessité, par exemple en France, d'écrire en français. Saint Louis demande à l'un de ses chapelains, qui est moine de Saint-Denis, de rédiger la chronique des rois de France, que l'on va appeler le roman des rois, le roman étant la langue du peuple, c'est-à-dire en français, alors que jusque-là, la chronique, toute chronique, était rédigée en latin. Donc, participation populaire par la langue, participation, je dirais, universelle. Même les seigneurs ont besoin de manier, donc, et de façon la plus correcte possible. Et une nouvelle grammaire, une nouvelle littérature est rédigée à ce moment-là, donc, pour les illettrés sans latin. De même, encore plus, poussant un peu plus loin, c'est un ensemble populaire. J'ai parlé des seigneurs jusque-là, mais le peuple ne sait pas lire du tout, ou c'est très rare. Oui, de temps en temps. Et on détecte quelques testaments et quelques legs de livres dans la petite bourgeoisie. La grande bourgeoisie a à cœur de lire comme l'aristocratie, et elle veut en faire partie. Mais la petite bourgeoisie, ou le monde artisanal, le monde très populaire, quelquefois des livres, possède des livres, on ne sait pas si c'est lu, mais en tout cas possède des livres, et on peut dire que la masse populaire ne lit pas, mais a une perception très multipliée de la valeur du geste, de la valeur de la parole. Ce sont des fêtes forcément très animées, très expressives, où l'essentiel est organisé selon les couleurs qui ont toutes une signification, couleur politique, couleur liturgique, couleur de l'événement que l'on veut célébrer, voilà, les couleurs, et ajoutons évidemment des musiques, des chants, des danses. Nous allons en évoquer quelques-unes et on peut commencer à les connaître. Les écoles de musicologie de la plupart des capitales, d'ailleurs, travaillent sur des textes qui s'étale du XIIIe, XIVe, XVe siècle, quelquefois un peu avant, pour la nouvelle musique polyphonique, et on peut célébrer, on peut chanter et célébrer ces musiques de fête. Voilà donc tout un contexte qui explique l'ampleur de ces fêtes qui, semble-t-il, sont constantes à l'époque médiévale. Fêtes qui s'adressent au fond à tous les publics, et il est très difficile de savoir si telle entrée royale peut être classée comme uniquement une fête politique, alors qu'elle est très essentiellement très populaire, avec une grande participation du peuple. Voilà, elle est également liturgique, donc une classification qui, selon le concept occidental des trois parties, pourrait paraître tout à fait superflue, parce qu'il faut essayer de tout évoquer. Mais donc, essayons de classer ces fêtes et de ne pas en oublier, tout au moins pas trop les oublier parmi les plus importantes. Évoquons les fêtes, par exemple, allons du plus haut au plus bas, peu importe, mais je répète, les uns et les autres s'entremêlent et c'est voulu ainsi. Les fêtes de la royauté et les fêtes de la liturgie, qui sensiblement d'ailleurs suivent le même calendrier. Fête de la royauté, d'abord peut-être la fête qui est véritablement celle du roi, c'est celle de son sacre. Et le sacre royal, qui est la véritable entrée dans le pouvoir, alors que très souvent ce sacre se célèbre quelquefois 4 ans, 5 ans, plus encore après l'avènement proprement dit, c'est-à-dire la mort du roi prédécesseur ou la disparition du souverain qui tenait le pouvoir jusque-là. Ce sacre est surtout réservé dans le déroulement de la liturgie au monde de la cour et à un public extrêmement réduit qui est celui de la famille royale et surtout de la grande famille politique. Évoquons surtout le sacre du roi de France, qui peut-être pour nous est le mieux connu, surtout dans la cathédrale de Reims, quoique ce ne soit pas une obligation, mais on peut dire que depuis le Xe siècle, la coutume veut que le roi de France soit sacré dans la cathédrale de Reims. Le roi est d'abord soumis à un serment de fidélité à l'Église, puis de règne pour le bien de son peuple, puis le roi est sacré par l'archevêque de Reims. Ce roi de France reçoit des onctions sur la tête et sur les mains et sur la poitrine et sur les épaules. Cette onction forme le sacre royal, avec l'huile d'une sainte ampoule qui lui est apportée en procession depuis l'abbaye de Saint-Rémy. Procession dans les rues, oui, mais pour une cérémonie qui se déroule dans la cathédrale. Et dans la cathédrale, après ce sacre proprement dit, et cette sainte onction de ce Saint-Crème qui n'est due que au roi de France, on a essayé de l'imiter ailleurs. Les Anglais ont dit qu'on sacre le roi avec l'huile de Saint-Emma Becket, envoyée miraculeusement par le ciel. Personne n'y a cru. Mais donc, ce roi de France est ainsi ensuite intronisé, assis sur le trône, et les pairs du royaume viennent mettre leurs mains sur la couronne. Pas de peuple, pas de participation populaire pour les gestes immédiats du sacre, mais soulignons, et vous le savez peut-être, que Charles VII, sacré grâce à Jeanne d'Arc, a tenu non seulement à avoir Jeanne d'Arc à ses côtés tenant son étendard, la fameuse phrase « Il était à la peine, il sera à l'honneur », on a tous appris ça à l'école primaire, mais surtout, ce qui est moins connu, le roi a fait venir les parents de Jeanne d'Arc, voyez, des gens du peuple, qui d'habitude ne figurent jamais dans un sacre royal, avec une garde particulière. Il est allé les faire chercher à Domrémy et les amener jusqu'à Reims. Il fallait une garde particulière parce que le pays était encore très peu sûr. Mais à la sortie du sacre, le roi, qui d'ailleurs le plus souvent va faire d'abord un pèlerinage sur la tombe de Saint-Marcoule, qui est très voisin de Reims, le roi guérit les écrouelles et demande une participation populaire. Le fameux geste royal, le miracle royal, il met ses mains sur le cou de l'homme ou de la femme atteint de l'adénite tuberculeuse, les écrouelles, les abcès froids, qui sont évidemment très répandus à cette époque-là. Prononçant la parole « Le roi te touche, Dieu te guérisse », si Dieu veut bien. Donc Dieu te guérisse, et c'est ainsi que fête, liesse, chant, procession s'enchaînent pour cette foule qui a été guérie ainsi par le roi. Le roi est porteur de ce miracle, par la suite aux anniversaires du sacre, à toute cérémonie, dans Paris, et plus du tout dans Reims, et même en dehors du royaume, on peut évoquer Charles VIII dans les guerres d'Italie, à l'extrême fin du XVe siècle, dans Florence, dans Rome et dans Naples, on a réuni devant lui une foule de Florentins, Romains, Napolitains, qui n'avaient jamais vu de miracle des écrouelles, qui ne savaient pas ce que c'était, mais on leur dit « on va faire la fête ». Le roi a touché ces braves Italiens, et il y a eu ainsi des fêtes populaires, et des chants et des danses, des nuits entières pour célébrer, il suffit d'y croire, le miracle royal. Et donc, fête populaire sur une fête remarquablement réservée, mais le roi en Occident, le souverain, je continue avec ces fêtes de la royauté, à bien d'autres occasions pour se montrer dans des fêtes. Et c'est à peu près constamment ce que je peux appeler une épiphanie royale. Le roi rencontre des ambassadeurs, reçoit des ambassadeurs, surtout au XIVe et XVe siècle, à la fin de l'époque médiévale. Ce sont des ambassadeurs qui viennent envoyés par des souverains étrangers. Il faut les recevoir avec des banquets, avec des musiques, avec des danses, avant toute discussion politique, car au retour chez eux, les ambassadeurs sauront parfaitement raconter la qualité de la réception royale. Le roi peut recevoir des souverains étrangers, non seulement les ambassadeurs, mais les souverains étrangers. Et il reste dans le souvenir français une remarquable entrée de l'empereur Charles IV, qui est venu donc de la Germanie, en 1378, rencontrer Charles V, roi de France, à Paris. Charles IV, l'empereur, Charles V. L'empereur était monté sur un cheval blanc, qui est signe de souveraineté, jusqu'à l'entrée du domaine royal, qui est grosso modo vers actuellement Compiègne. Vous voyez donc la vallée de l'Oise, l'entrée du domaine royal. À ce moment-là, Charles V de France lui avait fait offrir un cheval de robe brune ordinaire parce que le roi de France est venu à sa rencontre sur son cheval blanc. Il était en terre de souveraineté et c'est le roi de France seul qui, dans son domaine, doit être monté sur un cheval blanc. Ce sont des gestes, ce sont des couleurs, j'insiste là-dessus, car tout le monde sait, connaît la valeur symbolique de ce blanc cheval et d'un cheval ordinaire, et l'empereur, qui connaît parfaitement l'étiquette des maisons princières, n'a fait aucune difficulté pour monter un cheval ordinaire dans Paris, puisqu'il n'était pas dans sa terre de souveraineté. On raconte aussi, je ne sais pas si c'est très vrai, mais on le raconte avec joie, l'entrée de Louis XI dans le Béarn, lorsqu'il est venu rencontrer le roi d'Aragon d'abord, puis le roi de Castille. Il est passé par Sauveterre en Béarn. Tout le monde sait que le Béarn est une terre de souveraineté et que le vicomte de Béarn ne relève que de lui-même et non pas d'une autre souveraineté. Louis XI, comme tout roi qui se déplace, fait mener devant lui une épée dénudée, une épée tirée à nu qui est portée par un écuyer en signe de souveraineté. Entrant dans le Béarn, il a dit « Remets l'épée au fourreau car nous entrons en terre de souveraineté ». Voilà. Il faut connaître la valeur de tous ces gestes et de toute cette liturgie royale, je dirais. Liturgie et épiphanie sont les entrées royales. L'entrée que l'on voit se dérouler depuis certainement le début du XIIIe siècle, avant le XIIe siècle peut-être, au temps de Louis VII le Jeune, surtout de Philippe Auguste. Philippe Auguste, revenant de la victoire de Bourvines, a fait célébrer, c'est la foule de Paris, et ce sont les étudiants de l'Université de Paris, qui étaient toutes jeunes alors, 1214, et pour l'entrée dans Paris, des fêtes extraordinaires qui ont duré des nuits et des nuits et des journées pour célébrer la victoire royale, le roi rentré, entré dans la ville de Paris. faisant traîner d'ailleurs dans un chariot le comte de Flandre qui s'était soulevé contre lui et qui avait voulu s'aboucher avec le roi d'Angleterre et avec l'empereur, qui ont été les grands vaincus, bataille de Bouvines. Une entrée, c'est peut-être la première entrée la mieux racontée, la première connue. Par la suite, alors, à chaque victoire, à chaque très grand événement, des entrées, on suit un itinéraire qui est tout à fait organisé. D'abord depuis Saint-Denis, où le roi dépose les emblèmes de sa souveraineté, l'entrée par la porte Saint-Denis, la rue de Saint-Denis. L'on passe devant le palais de justice où l'on joue un mystère. Je vais revenir sur ces mystères. Ce sont des scènes jouées. On joue un mystère sur le jugement de Salomon, donc scène de l'Antiquité judaïque et de l'Antiquité biblique. Puis le roi et toute sa cour vont à Notre-Dame de Paris, de là dans le palais royal. Donc la manifestation de cette présence qui est une suite d'allégresse aussi, avec tous les petits enfants de Paris habillés de blanc, massés dans les rues. Les femmes et les hommes à leurs fenêtres, les maisons que l'on a taxées de draps blancs et ainsi dans toutes les entrées en Occident, et les rues qui d'habitude sont des fondrières et des amas de boue, les rues nettoyées et évidemment couvertes aussi de fougères et de fleurs pour le passage du roi. Ceci pour toutes les victoires aussi, victoire qui est une défaite française, mais une entrée fabuleuse, l'entrée de Henri V d'Angleterre en 1415, après sa victoire d'Azincourt, qui est une affreuse défaite, un désastre complet pour les Français. Beaucoup ont été tués parmi les Français, beaucoup de très grands personnages, beaucoup sont pris en captivité. Il y a dans la suite royale de Henri V de Lancastre le duc d'Orléans, le duc de Bourbon, par exemple, et tant d'autres, vous voyez. Or, cette victoire d'Azincourt s'est déroulée le 25 octobre 1415. Il a fallu attendre 2 mois complets pour que la ville de Londres reçoive le roi. Ceci s'explique en Angleterre car le roi n'habite pas Londres. Il habite plusieurs palais qui sont dans la banlieue de Londres. Chaque fois qu'il doit entrer dans Londres, qui a une commune particulière, avec un maire, qui ne sera lord qu'au XVIe siècle. Donc un maire et 24 aldermen, c'est-à-dire donc les conseillers municipaux. Voilà, cette ville se gère elle-même et reçoit, quand elle le veut bien, des personnalités extérieures et même le roi d'Angleterre. Donc pendant 2 mois, on a nettoyé, fabriqué des machineries, fabriqué des faux personnages, enfin des représentations, et le roi Henri V entre dans Londres depuis le sud, depuis Blackheath et Southwark, par le pont de Londres. Donc il entre et il est reçu d'abord par deux très grands personnages de bois recouverts de draperies peintes, représentant la qualité du peuple de Londres et la ville de Londres. Et le grand mannequin de la ville de Londres tient les clés de la ville qu'elle offre au roi par une machinerie intérieure, vous voyez. Donc ce grand personnage de bois ainsi. Et le roi entre dans la ville pour aller jusque dans la cathédrale Saint-Paul. Il faut aller du sud-est au nord-ouest et le trajet est assez long. Reçu constamment par des représentations de murailles, des représentations de châteaux, des représentations aussi, toujours de 2 à 3 mètres de haut, de personnages de bois et de linge, et de linge peint, représentant les saints anglais, les saints rois anglais, saint Édouard le Confesseur, saint Edmond. On ne parle pas du tout de Guillaume le Conquérant et de Richard Cœur de Lion, qui étaient tout de même français, car on fait une anglaise sur les Français. Et partout, alors, des petites jeunes filles de la ville de Londres, les petits enfants de la ville de Londres, petits garçons costumés en petits anges avec des robes blanches, des ailes de papier doré, des fleurs sur la tête, et tous et toutes chantant, donc, pour le passage du roi en anglais. Les Lancastres ont beaucoup voulu insister sur la valeur de l'anglais et de l'Angleterre, alors que jusqu'au Plantagenet, qui ont été renversés par un coup d'État par les Lancastres, on s'exprimait en français en Angleterre, puisque les Plantagenets étaient originaires de France, de l'Anjou. Voilà, vous voyez toute cette symbolique qu'il faut comprendre ainsi. De même, je vais évoquer aussi les entrées du pape dans Rome. Le pape est très souvent dans l'extérieur de Rome, dans des châteaux qui sont des états du pape, dans d'autres villes. Il est très souvent chassé d'ailleurs par des révoltes. ou par des ennuis politiques, mais chaque fois qu'il rentre dans Rome, il monte un cheval blanc, toujours la souveraineté de l'Église, évidemment, suivi par tous les cardinaux, tous les évêques, tout ce que l'on peut trouver donc comme sommité ecclésiastique, toujours monté sur des chevaux blancs, et c'est une cavalcade blanche qui traverse toute la ville de Rome, qui va à la cathédrale de Rome, dans la cathédrale de Rome qui est Saint-Jean de Latran, et qui va aussi vénérer les reliques de Saint-Pierre dans la basilique du Vatican en traversant le Tibre et en choisissant aussi avec des haltes donc ainsi donc l'itinéraire de cette célébration. C'est évidemment très important. Les entrées royales du roi de Castille, du roi de Navarre qui n'a pas tellement de victoires à remporter, on n'en parle pas trop, mais le roi de Castille a constamment des victoires remportées sur les Maures au moment de la reconquête. Et c'est d'ailleurs un roi de Castille qui est au début du XIVe siècle, en 1328, le très jeune Alphonse XI, qui, le premier de tous ces rois d'Occident, se fait représenter sous un dé que tiennent évidemment les dignitaires de son royaume, un dé comme au-dessus du Saint-Sacrement lors des processions de la fête Dieu qui viennent de s'organiser et qui ainsi célèbre une personnalité quasi-ecclésiastique, je n'ose pas dire quasi-divine, quoique au XVe siècle, l'un des rois de Castille, qui d'ailleurs était un roi très contestable et qui laissait gouverner à sa place un favori, Alvaro de Luna, mais le roi de Castille, Jean II, s'était fait représenter en Dieu le Père, soi-même, pourquoi pas, avec un entourage donc de saints qui entraient ainsi dans Tolède, dans Séville, dans Tolède, dans Valladolid, car le roi de Castille a plusieurs capitales et à chaque fois, on recommence évidemment le déroulement de ses entrées. Il y a donc un cérémonial, on met le roi sous un dé, on effeuille des fleurs, on fait chanter les enfants, on a toute une liturgie ainsi pour cette participation. Tout le monde est à la fenêtre ou dans les rues, et il faut une masse populaire pour fêter le roi autant que la masse aristocratique. Les fêtes de l'Église épousent tout à fait ces fêtes politiques, et même les gouvernent et imposent leur calendrier. La fête de l'Église, fête à peu près toutes les célébrations, marque et y tient beaucoup, car le peuple a l'habitude, et on a gardé ce souvenir, sans trop de distinction, de célébrer des fêtes païennes, des fêtes cosmiques, des fêtes, la fête de la lumière, la fête de la nature, la fête de la lune, la fête de ceci, de cela, de l'eau, c'était tout à fait païen. L'Église s'est dépêchée de transformer toutes ces rites païens très antiques et très anciens qui étaient de façon viscérale au cœur de leur peuple, ainsi en fait liturgique. Et c'est ainsi que tout au long de l'hiver, toute une série de très grandes fêtes insistant sur la lumière et sur la symbolique de la lumière divine bien sûr, mais qui est aussi la lumière de la lune et du soleil, etc., donc traversent tout le monde occidental. Fête qui commence en général avec la fête de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, le 6 décembre, c'est Saint-Nicolas de Myre en Asie mineure, qui avait été un martyr de l'époque romaine. Son corps avait été transporté en Occident de façon miraculeuse dans un vaisseau sans rame, ni voile, ni gouvernail. On le redit pour transfert miraculeux ainsi. Et Saint-Nicolas est fêté, surtout dans les villes du Nord, pas tellement dans les villes du Sud, mais on a fait remonter le corps par le sillon Sonorone, donc jusque dans les pays du Nord. Et Saint-Nicolas est fêté ainsi. Et on raconte, et on y croit tout de suite, que Saint-Nicolas a ressuscité des petits-enfants qui étaient donc martyrisés, si bien que la Saint-Nicolas est la fête des enfants autant que la fête, donc la fête en général, et ce sont évidemment toutes les cohortes de petits-enfants qui chantent sur le trajet de Saint-Nicolas qui est promené, dont la statue de Saint-Nicolas qui est promenée dans les rues ainsi de général toutes les villes rhénanes et toutes les villes flamandes et du Nord et toutes les villes alsaciennes qui appartiennent à l'Empire alors pendant très longtemps. Saint-Nicolas, 6 décembre. Puis les fêtes de Noël. Noël, la fête elle-même de Noël, avait été une fête assez fluctuante. On ne savait trop comment la placer. Était-ce au mois de décembre, était-ce au mois de janvier. En 439, l'église d'Antioche, immédiatement suivie par Constantinople et l'église orientale, et tout de suite aussi l'église de l'Occident, l'église en général, place la fête de Noël au 25 décembre. le 25 décembre, qui est l'ensemble de 48 heures qui suivent le solstice du 21 décembre, lorsque la nuit est encore très longue, mais où commence la lumière du jour, peu à peu, jour après jour, ceci donc avec un élargissement progressif pour arriver jusqu'aux équinoxes du 21 mars, jusqu'à l'équinoxe du 21 mars, lorsque la nuit et le jour sont d'égale valeur et d'égale contenance. Donc la fête de Noël qui est la fête de l'enfant Jésus, bien sûr, mais il faut attendre Saint François d'Assise pour avoir la réalisation, et puis les autres mendiants avec Saint François d'Assise, la réalisation peinte, figurée, jouée, etc., d'une crèche. Saint François d'Assise, qui était très proche du monde animal, qui aimait beaucoup frère Anne, l'âne, son âne, donc Saint François d'Assise a voulu représenter la crèche avec les boiseries, avec la paille, avec une femme du peuple tenant un bébé. On y met Saint Joseph, qui est venu assez tardivement, mais qui est l'objet d'un véritable culte désormais, en tant que père de famille, voilà. Et surtout aussi, Saint François a voulu mettre l'âne, son âne, donc l'âne et le bœuf. On a ensuite rédigé toute une liturgie tout à fait remarquable, disant que l'âne représentait les forces païennes, qui portaient les forces païennes, donc sur le bas de l'âne, et représentant donc ces forces païennes qui se convertissent à l'approche de la crèche. Et le bœuf qui est sous le joug représentant donc le peuple juif, qui est sous le joug de l'ancienne loi, mais qui, à l'approche de la crèche, va peu à peu se convertir selon les normes du Deuxième Testament et de la Nouvelle Loi. Donc, vous voyez, on continue à broder et à célébrer ainsi. Fête de Noël, donc instituée ainsi. Fête de l'Épiphanie, le 6 janvier, fête de l'Épiphanie, qui est donc la fête des mages. Ce sont des prêtres mages qui étaient venus selon la liturgie du culte de Noël, mais on les transforme en rois à partir du XIIIe et XIVe siècle, avec une touche de plus en plus orientalisante, et on figure le roi blanc, le roi noir et le roi jaune, pour montrer ainsi l'ensemble de tous les continents connus alors, car on connaît l'Asie, on connaît l'Afrique et on connaît l'Europe pour le XIVe et XVe siècle, pour célébrer donc les peuples universels qui viennent célébrer l'enfant Jésus. En insistant beaucoup dans les miniatures, dans les représentations et dans le jeu lui-même sur le côté orientalisant, avec des léopards, des guépards, des mimes aussi qui sont costumés en noir et en asiatique. On les montre ainsi pour montrer cette participation universelle du monde de vénération de la crèche. Puis il faut attendre évidemment le moment des fêtes de Pâques, mais célébrées d'abord par le carême et par une énorme fête populaire qui laisse alors les jeux débridés. On a poussé très loin, c'est la fête des Brandons. Qui est le dimanche avant le Mardi Gras, confondu d'ailleurs avec le Mardi Gras, parce qu'on continue à célébrer et à faire ripaille le dimanche, le lundi et le mardi, donc trois jours de plénitude populaire. On tient des brandons qui sont des petites gerbes de paille que l'on allume, mais il y a eu tellement de feux évidemment et d'incendies qu'on a demandé au peuple de remplacer ces brandons de paille enflammée par des branches tenant des bonbons, tenant des garnitures, tenant des bouquets, tenant des rubans, mais surtout des douceurs en épicerie que l'on offre ainsi pour les brandons. Puis le carnaval proprement dit carnevale en italien, car il semble que ce soit en Italie qu'on ait au carnaval le mieux célébré cette fête populaire, où l'on s'empiffre, prenons ce terme évidemment un peu trivial, mais c'est cela, donc de viande, de toutes sortes de choses, énormément, car on sait que dès le lendemain, il va falloir suivre un jeûne très rigoureux, rompu de temps en temps, on ne sait jamais, mais enfin, donc, voilà, après, donc, les gâteaux, les oublis, les tartelettes, les doucelines, etc., et surtout les viandes et toutes les graisses dont on a besoin pour affronter, donc, les jours de jeûne du carême. Le carême prenant, qui est très long, qui, évidemment, demande une rectitude de 40 jours. Assez nécessaire, d'ailleurs, au bien-être corporel, après cette fête de carnaval si affolante. Mais ensuite, la fête de Pâques, qui elle aussi a été fixée et qui remonte à très loin, car c'est une fête de Pâques qui était véritablement païenne, puis qui est devenue évidemment juive, antique, et devenue, avec la vie du Christ, la fête de l'Église. Païenne, car ceci se situe donc après l'équinoxe du printemps, toujours à partir donc du 21 mars. Les païens tuaient des agneaux et mettaient le sang des agneaux dans les quatre coins donc de leur champ ou de leur localité pour marquer les quatre points cardinaux avec le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui est essentiel, vous voyez, dans la fête juive par la suite. La fête juive, qui est donc le grand passage de la sortie d'Égypte, avec ce sang de l'agneau aussi qui marque la maison des Hébreux pour que l'ange exterminateur préserve les Hébreux qui sont marqués ainsi par le sang de l'agneau, puis le grand départ, la fête de Pâques et la Pâque qui elle-même donc se célèbre toujours selon ses rites, avec des corrections talmudiques de l'époque médiévale aussi, mais qui sont très nécessaires, voilà, avec certaines herbes amères et certains gestes. Et surtout, alors, la fixation de la Pâque chrétienne, le premier dimanche, puisque le Christ est ressuscité un dimanche, le premier dimanche qui suit la pleine lune, qui elle-même suit l'équinoxe du 21 mars. Donc la fête de Pâques a évidemment une date flottante, puisque l'on va du 21 mars au milieu fin du mois d'avril, puisque cette pleine lune elle-même donc varie avec le temps, la fixation ainsi de cette fête. Et à Pâques, ce sont des célébrations religieuses et populaires tout à fait remarquables. Puis ce sont les fêtes de Jésus-Christ. Depuis le XIIIe siècle, 1264 exactement, la célébration du corps du Christ, Corpus Christi, la fête Dieu, et des processions particulières marquent la fête Dieu. Et par la suite, je ne vais pas dire enfin, mais avec l'été, on pense peut-être à autre chose, alors qu'on insiste tellement sur la lumière au moment des nuits de l'hiver, vous voyez. Donc la fête du 15 août, qui est la fête de l'Assomption de la Vierge, et qui aussi marque donc est marquée par toutes ces célébrations. Donc selon un certain calendrier, selon certaines valeurs qui peuvent être à l'origine tout à fait païennes, tout à fait symboliques, mais transformées par l'Église. Et l'Église surveille toujours, participe quelquefois de façon débridée, elle aussi. Elle laisse faire absolument dans toute cathédrale, en général on les a gardés dans les cathédrales, les chanoines danser sur le labyrinthe. On ne sait pas tellement comment expliquer cette fameuse danse des chanoines sur le labyrinthe, car on a gardé quelques labyrinthes à l'entrée de la nef de Chartres, il y en a aussi à Laon et dans les cathédrales du Nord, pas partout, car très souvent la nef a été refaite et ne sachant plus du tout à quoi correspondait ce labyrinthe de mosaïque, on a recouvert tout cela de façon différente. Alors, les chanoines devaient marquer en procession. Ils sont au moins 8, ils peuvent être 12, 18, 20, etc., selon l'ampleur de la cathédrale. Ils marquent par une sorte de danse rythmée, plutôt d'une marche rythmée, quelquefois même en envoyant des balles, en s'envoyant mutuellement des balles, qui pourraient peut-être représenter la terre que l'Église soutient, envoie. Mais on ne sait trop comment l'expliquer, enfin c'est une explication. Explication qui est de celle d'André Vaucher, qui est actuellement peut-être l'un des meilleurs historiens de l'Église à l'époque médiévale, pour le labyrinthe. C'est la symbolique de Jérusalem et du pèlerinage à Jérusalem. Et à chaque changement de couleur, car le labyrinthe est de plusieurs couleurs, à chaque changement de couleur dans ce labyrinthe, correspond à un lieu qui, à Jérusalem, demande une vénération particulière, l'église Sainte-Anne, évidemment le Saint-Sépulcre, le Cénacle, etc. Et les chanoines s'arrêtent, marquent le pas, repartent ainsi. Donc, grand point d'interrogation, et une danse donc, à l'intérieur de l'église, dans la cathédrale, danse, entre guillemets, qui est autorisée par l'Église. Plus encore, les célébrations de musique et surtout, alors, les prédications entrecoupées de mystères. Et on voit très bien que l'Église se sert du théâtre populaire, du mystère politique, du mystère populaire pour aider à sa prédication. La prédication, de plus en plus, donc depuis le XIIe siècle, en langue vulgaire, alors qu'autrefois il y avait des prédications en latin, mais le peuple d'ailleurs était de l'autre côté du chancel et n'écoutait rien du tout, ne comprenait rien du tout, mais enfin peu importe. Désormais, il est là, il entend et il comprend. Ces prédications peuvent durer plusieurs heures, soit dans la cathédrale du haut de la chaire, cathédrale ou église, soit alors dehors, devant la cathédrale, sur la place et le chevet, soit très souvent dans le cimetière. car qui dit cimetière dit place. On peut marcher sur les tombes, on peut aller sur les tombes, ou ainsi de suite. Il y a la place, et donc on écoute cette prédication. Et la prédication, alors, pour toute raison liturgique, ou simplement pour au moment des épidémies de peste, au moment de la folie de Charles VI, au moment d'un désastre politique, d'une révolte politique, d'une insurrection, d'une défaite devant une souveraineté extérieure. Ces prédications, dans les rues, dans Paris, le frère Richard ou autre, beaucoup plus tard à Florence, Savonarole, vous voyez, ce sont des noms tout à fait connus, prédications qui peuvent durer très longtemps et qui alors sont entrecoupées de mystères. Le mystère est le jeu illustrant le thème de la prédication. Cette prédication elle-même commence de la part de l'orateur par simplement montrer du doigt sur la sculpture de la chair, ou sur les sculptures du jubé, ou sur les statues qui sont dans la cathédrale, ou sur les vitraux qui rythment aussi l'ouverture de la cathédrale, pour montrer telle sainte, telle figure royale, telle figure divine, figure princière, etc. Donc, vie du Christ, vie de la Vierge, vie des saints, il montre d'abord ainsi. Puis, avec le rouleau d'Exultet, depuis le haut de la chair, il déroule progressivement, au fur et à mesure de sa prédication, un grand rouleau donc de papier ou de parchemin au début, mais enfin ça coûte très cher, qui est peint ou avec des signes symboliques pour expliquer aussi. Il faut voir. Il y a un peuple qui a besoin de voir, car il ne comprend pas toujours ce qui est lu par les intellectuels. Mais le peuple doit voir. Il faut lui montrer ainsi les sculptures ou les dessins du rouleau de l'Exultet. Et puis surtout, il voit le mystère. Le mystère de la passion, c'est surtout le cycle de la passion qui est joué dans la vie du Christ et qui commence donc avec le mystère de la scène, le corps et le sang du Christ, la présence de tous les apôtres, l'affreux Judas qui est évidemment très montré du doigt et qui se sauve avant tout le monde pour aller vendre de quelques deniers le Christ chez les Romains. Voilà, donc tout cela est joué. Et puis la mort du Christ, la flagellation, la passion du Christ et la mort du Christ, et puis l'enterrement du Christ dans le Saint-Sépulcre, et surtout alors Sainte Marie-Madeleine, enfin Marie-Madeleine, qui est jouée par un homme. Il faut attendre le XVIe siècle pour que les rôles féminins soient tenus par des véritables femmes. Dans le théâtre populaire, laïque, populaire, autant que dans le théâtre religieux. Donc un homme avec des fichus et tout ça, qui tient le rôle de Marie-Madeleine et qui se met à marchander. On laisse libre interprétation, il y a constamment liberté d'improvisation au cœur du thème du mystère. Et il était bien connu que Marie-Madeleine marchandait de très près le prix de l'onguent qu'elle va acheter chez le marchand, parce que c'est elle qui doit oindre le corps du Christ, donc de façon de plus en plus leste. Et le marchand répond évidemment avec toutes sortes aussi de verdeur, et il insiste sur la carrière de Marie-Madeleine qu'elle tenait avant la rencontre du Christ, ceci avec les termes tout à fait appropriés, qui n'affolent personne. On a l'habitude de tout cela. Voilà. Jusqu'à ce que l'Église tout de même dise: vous n'êtes pas là pour dire des gauloiseries, vous célébrez la passion du Christ, donc le marchandage, les lazis, etc. Non, 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 non. Mais l'Église, dans les conciles du XVe siècle, et surtout le concile de Trente, à la fin du XVIe siècle, jusque-là, improvisation, et on pouvait un peu raconter n'importe quoi. Vous voyez la récréation de saint Thomas d'Aquin, il ne faut pas en abuser, mais ça fait du bien. Voilà. Donc, la passion du Christ, et jusqu'à ce que de très grands textes soient véritablement rédigés, le roi René d'Anjou-Provence, en 1433, demande à Arnoux Gréban, qui est un auteur très connu et qui a laissé de très grands textes, de rédiger la passion, le mystère de la passion, et c'est ce mystère qui a été le plus joué donc dans les scènes liturgiques, où il n'y a pas du tout de lazis tout à fait offensant. Donc il s'est très bien surveillé, mais nous sommes en 1433, hein, avant. Voilà, donc les mystères qui ponctuent la prédication. La vie de l'Église et la vie de la royauté ainsi se marquent par ces célébrations. Scènes aristocratiques qu'il faut essayer d'énumérer aussi, les fêtes aristocratiques qui sont les fêtes de la doublement chevaleresque, qui n'a pas toujours été une grande fête d'ailleurs, mais qui demande désormais une nuit de veillée, des gestes qui marquent l'adolescent ou le jeune adulte On peut être adoubé chevalier à 14 ans, 15 ans, 17 ans ou un peu plus tard, mais il est très rare qu'on adoube quelqu'un qui a la vieillesse de 50 ans, absolument pas. Donc c'est trop tard. Voyez, donc marquant ainsi les adoubements, toujours suivis de cérémonies de famille et de l'entourage seigneurial. Les scènes aristocratiques que sont les banquets pour la réception de jeunes fiancées ou pour célébrer des mariages ou pour toute occasion, parce que ça fait du bien de quelquefois s'asseoir de longues heures et de manger ensemble, de manger et boire avec ces banquets, donc au cours de ces banquets. En 1458, Gaston IV de Foix-Béarn. Attention, ce n'est pas Gaston Phoebus. C'est 1458, alors que Phoebus est mort en 1391. On va en parler avec la chasse, mais pas pour ce banquet. C'est de Foix-Grailly, c'est une autre dynastie, mais également de comte de Foix et de vicomte de Béarn. Donc Gaston IV, qui est ami à la fois de Charles VII, nous sommes en 1458, et du dauphin Louis, qui pourtant est très ennemi de son père, très opposé à la politique de son père. C'est le futur Louis XI. Donc il a reçu, il a réalisé ce miracle d'être à la fois l'ami de Charles VII et du dauphin Louis, qui devient Louis XI. Gaston IV célèbre à Tours, en 1458, les fiançailles de Madeleine de France, qui est l'une des sœurs du futur Louis XI, donc l'une des filles de Charles VII, avec un roi de Hongrie. Ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais connus, mais on veut la fiancer avec ce roi de Hongrie, Ladislas. Ladislas dit le posthume parce qu'il a succédé à son père très jeune. Et c'est Gaston IV qui, en maître de cérémonie, était de Dunois, qui est l'un des compagnons de Jeanne d'Arc, qui est très connu, le comte de Dunois, Jean de Dunois, et tous les autres, donc des grands seigneurs de France, célèbrent un banquet tout à fait extraordinaire avec 7 plats pour 150 convives. 140 plats étaient distribués pour les 150 convives. 7 plats. D'abord, on commence par des grandes libations de vin et d'hypocras. L'hypocras est un vin mêlé de cannelle, de miel et de diverses fleurs pour en faire un vin doux, un vin sucré. Mais il est très tonique, on est très vite. Donc voilà, de vin et d'hypocras. Et puis ensuite, des viandes sauvages, qui sont les oiseaux de chasse. Puis les bœufs et les veaux. Puis les moutons. Puis encore quelques lapins et quelques cailles, le tout avec des potages, c'est-à-dire des cuissons de légumes. Les potages sont des légumes, on possède évidemment des légumes en Occident depuis toujours, mais on en fait venir également de tout le monde méditerranéen arabisé, voilà, donc des cédras, toutes sortes, qui sont cuits ainsi en 7 grandes traînées de plats qui sont donc apportées par une nuée de serviteurs pour 150, 140 plats, 150 participants, et ces grandes absorptions de viande et de potage sont entrecoupées d'entremets. Les entremets, évidemment, entre les mets, sont des jeux, des célébrations qui aident à la digestion, mais qui coupent aussi donc ce temps qui dure sinon plusieurs heures pour ce banquet. C'est un banquet que l'on connaît très bien car on a une description par Escherrier, qui est en occitan un chroniqueur de Gaston IV, mais à peu près partout il en est ainsi, donc dans tout milieu aristocratique. Et donc ces entremets, ce sont sur des chariots roulants, on fait venir des faux châteaux de carton et de boiseries avec des petits enfants qui sortent, qui sonnent de la trompette, qui surtout dansent les morisques. On danse la morisque, c'est-à-dire une danse que l'on croit être une danse arabe sarrasine et qui vient d'Espagne. Vous voyez, mort, morisque. Ce sont des danses très rythmées avec des petits tambourins, des petites cymbales et ainsi donc des instruments à percussion pour faire trépigner ainsi et pour faire sauter, trépigner. On en a besoin donc entre les plats. Voilà. Donc tout se termine par des dons de sucre, des fleurs et des oiseaux en cire, mais plutôt en sucrerie, oui, en confiserie, qui sont offertes aussi aux participants. Et toujours, dans ces grands banquets, le vœu du paon ou le vœu du héron, le duc de Bourgogne, dans son temps, dans le vœu du héron ou le vœu du paon, avait marqué en quelque sorte cette nouvelle mode, et s'est répété ainsi, donc le vœu du paon. Chacun vient posant la main sur une figuration d'un paon, mais peut-être aussi quelquefois un paon tout entier, un paon réel, voilà. Le paon qui est considéré comme un animal couard, si je n'accomplis pas telle magnifique exécution, je suis aussi couard que toi, ou aussi à chasser, aussi digne d'être chassé, ou passible d'être chassé que toi le héron, ou toi le paon, voilà. Donc, le vœu ainsi. Les fêtes populaires, enfin, ou les fêtes du corps, qui peuvent être aussi aristocratiques et mêlées. Le théâtre, je l'ai évoqué avec les mystères, avec ces scènes de la passion, avec les entremets, mais il y a un véritable théâtre, la farce du Cuvier, que nous avons tous joué quand nous étions à l'école primaire. En général, c'est donné à jouer par les enfants de 8, 10 ans, 12 ans, voilà, la farce du Cuvier. Le jeu de Robin et Marion, qui est très gaulois, la dent de la halle, et qui demande un certain âge adulte, voilà, qui est donc aussi une série très populaire et très leste. Donc le théâtre. Alors le théâtre se célèbre sur une place publique, très rarement à l'intérieur d'un édifice, donc sur une place publique, on couvre le sol qui est en général irrégulier de lattes de bois pour former une scène cohérente, et chaque scène, parce que ça peut durer très longtemps, chaque scène est animée par un chariot qui lui-même est préparé à l'avance sur deux étages, le char que l'on peut appeler le play, P-L-A-Y, c'est-à-dire le jeu en français, le pageant en anglais, le char à deux étages, donc à l'étage intérieur, derrière des couvertures et derrière des draperies, les acteurs se costument ou se préparent, une petite échelle permet de gagner le premier étage où se joue la scène, on amène le chariot jusqu'au milieu de la scène, puis on retire le chariot, on en fait venir un autre, ainsi, vous voyez, animation, monter et descendre, jusqu'à arriver alors à une véritable machinerie très bien réalisée déjà dans les mystères de l'Église. La ville de Florence, par exemple, a réussi une machinerie extraordinaire pour célébrer dans l'église de l'Annunziata, la fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge. En 1419, elle a demandé à Brunelleschi, qui est un architecte très connu, qui a été le réalisateur de l'immense grande coupole de la cathédrale Sainte-Marie des Fleurs, un chef-d'œuvre de réalisation avec la coordination des voies, des lumières, des galeries de circulation. Brunelleschi soi-même a réalisé pour la fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge une machinerie extraordinaire avec le ciel s'ouvrant et se fermant, avec l'archange Gabriel descendant du ciel et remontant plusieurs fois, la Sainte Vierge sortant devant sa porte par une plateforme roulante et revenant à l'intérieur de sa maison, ainsi répondant donc ceci, donc entièrement monté avec des cordages, très réussi, donc 1419 par le grand Brunelleschi. Donc théâtre, le théâtre populaire, le théâtre religieux, l'un et l'autre d'ailleurs s'entraidant, s'entrépousant, voilà, pour le théâtre. Et puis toutes sortes de jeux du corps, et nous pourrions dire le sport. Le sport est un terme anglais, mais qui vient du français. On dit le desport, D-E-S-P-O-R-T, c'est la fête du corps, la célébration, donc par fête, par toutes sortes, d'ailleurs avec une certaine étiquette et une mise en forme, de mieux en mieux travaillée, donc pour savoir comment arriver donc, à contenter tout le monde. Les tournois. Au XIIe siècle, on connaît par la geste de Guillaume le Maréchal des tournois qui ressemblent un peu à des scènes de guerre. Ce sont des grandes charges de cavalerie, les uns contre les autres, dans des espaces découverts de Landes, d'Angleterre ou de Normandie, dans des plaines, jusqu'à donc arriver à être victorieux du camp inverse. C'est un entraînement à la guerre, c'est véritablement un entraînement à la guerre, et c'est protégé ainsi, et c'est voulu ainsi. Voilà, donc ces tournois. Et puis peu à peu, XIIIe, XIVe, XVe siècle, avec toute une littérature Au XIIIe siècle, le roi Frédéric II de Sicile a écrit De arte venandi cum avibus, un traité de vénerie. Puis, à peu près tous les grands seigneurs ont écrit des livres de chasse. Gaston Phébus, bien sûr, livre de chasse de Gaston Phébus, qui est remarquablement illustré, une 5 ou 6 très grandes réalisations, demandées surtout par la cour de Bourgogne, par la suite, en couleur, ou également en grisaille. Très très joli, le livre de chasse en grisaille. Il y a eu, il y a 2 ans, dans le château de Pau, une exposition des livres de chasse de Gaston Phébus, tout à fait remarquable. Voyez. Donc, l'art de la chasse, Gaston Phébus. Les descendants de Frédéric II dans la couronne de Sicile ou en Empire, ou le roi de Castille, Alphonse X au XIIIe siècle, puis ses successeurs et les princes de sa famille qui ont écrit également, donc réalisé des livres de chasse. Livres de chasse qui sont surtout confié à l'aristocratie, avec cette qualité donc de l'illustration, bien sûr, mais qui demande la participation populaire comme tout le monde. Le peuple, d'ailleurs, a sa chasse plus ou moins autorisée, vous le savez tous, évidemment, il ne faut pas aller sur les terres du seigneur pour tuer les cerfs ou les sangliers du seigneur, on leur réserve une certaine chasse, et en général, c'est suivi. Mais le peuple doit participer à la chasse seigneuriale pour aider, pour dépecer, pour participer, pour rabattre la bête. La bête, soit le sanglier, soit les oiseaux, soit le cerf et les biches, ainsi les rabattre jusque devant les participants de seigneur, ainsi, et c'est donc demander la chasse, les diverses chasses qui réunissent tout le monde. Nous avons les tournois, nous avons aussi le sport proprement dit, nous dirions aujourd'hui le sport proprement dit, nous avons des scènes de natation, nous avons des courses de patinage sur les canaux gelés, et la ville y participe toujours, donc très populaire, ce sont des fêtes magnifiques. Et nous avons les fameuses courses de chevaux. Les quartiers des villes italiennes célèbrent toujours le palio. Le plus connu est le palio de Sienne, au 15 août, et également à l'Ascension, donc à des fêtes d'église. Vous voyez, église et fêtes sportives se mêlant. Mais avec les costumes traditionnels, montant à cru les chevaux, tous les coups sont permis, comme cela se déroulait depuis l'époque médiévale, donc des ressuscités. À Sienne, mais il y en a aussi à Prato, à côté de Florence, et au fond à Bologne, et partout dans toutes les villes italiennes. Courses de chevaux. Courses corrida. Les corridas, je veux absolument parler, avant de terminer, des corridas. La corrida qui est venue du monde arabe, du monde méditerranéen, qui est du monde romain, bien avant le monde arabe, dans tout le monde méditerranéen. Les Romains pratiquaient évidemment la corrida avec leurs propres animaux, comme beaucoup d'autres choses. Donc, préservée dans le milieu méditerranéen, très célébrée en Espagne, dans toutes les cours princières et royales. Lorsque le roi de Navarre reçoit à Olite ou à Pamplune ou à Tudela, mais en général c'est à Olite, un prince français, il fait célébrer devant lui des corridas, parce que ça ne se fait pas à Paris, il faut lui montrer ce qui est un peu exceptionnel. On fait venir d'ailleurs les taureaux et les matadors de l'Aragon, et le taureau, lorsqu'il est tué au dard, on l'écrit dans les contes, tel matador aragonais a tué avec le venablo, le dard, a tué le taureau, et on lui donne quelques livres pour célébrer sa victoire. Très longtemps dans les milieux royaux espagnols, ainsi des courses de taureaux, alors qu'ils peuvent être extrêmement sanglantes et sauvages. Et les rois catholiques ont reçu en 1492 un ambassadeur d'Angleterre, lui ont fait célébrer une corrida, puisqu'évidemment ce n'est pas à Londres que l'on pratique la corrida, on fait autre chose. Il y a des combats de coqs et des combats très sauvages aussi, et des combats de chiens en Angleterre, très sanglants, très sauvages. Mais donc la corrida a été offerte par les rois catholiques. Alors à ce moment-là, ce sont des chiens sauvages qui sont dressés pour sauter sur la tête, sur le dos et sur la tête du taureau, et lui mordre les oreilles, jusqu'à déchiqueter les oreilles, lui faire perdre ainsi à peu près tout son sang, jusqu'à ce que la bête s'aplatisse par terre et soit tuée. Alors, ce n'est pas très sportif, évidemment, achevée, nous dirions, par un dernier matador. Mais elle est déjà complètement esquintée par les chiens. Voyez. Donc, toutes sortes de courses de taureaux, voilà. Donc, des célébrations ainsi, des célébrations qui réunissent tout le monde, qui sont la joie de vivre, jusqu'à ce que le concile de Bâle, les conciles, le concile de Trente et d'autres mettent un peu le haut là. Pas tellement donc sur les courses de chevaux et les corridas et autres. ceux qui veulent se faire tuer, bon, tant pis. Les tournois, dans les tournois à la fin d'époque médiévale, sont des tournois dont les armes sont mouchetées, qui, là encore, demandent toute une étiquette. Le livre des tournois du roi René d'Anjou-Provence est magnifique. C'est une symbolique plus qu'une véritable réalisation des tournois de l'époque de Guillaume le Maréchal, qui était des entraînements à la guerre. C'est devenu, au contraire, procession, rassemblement, petit fait d'armes. Voilà, avec un héros, le héros d'armes, le héros diseur qui décline toutes les armoiries des participants, puis qui marque par un grand cri d'allégresse chaque réussite dans la joute, donc pour tel ou tel camp, car il y a le camp des appelants et le camp des défenseurs. Donc, jeu aristocratique, oui, bien sûr, que ces tournois de la fin de l'époque médiévale, mais qui peuvent être aussi, tout de même, des accidents. On connaît quelques très grands noms qui se sont fait tuer dans des tournois parce qu'ils n'avaient pas suivi les règles de la courtoisie ou parce qu'il y a toujours un mauvais coup, évidemment, on ne sait jamais. Un fils d'Henri de Plantagenet, Geoffroy, qui avait épousé l'héritière de Bretagne, s'est fait tuer dans un tournoi à Paris devant Philippe Auguste. L'un des fils de Gaston IV de Foigrailly, dont je viens de parler à propos de ce banquet, Gaston, qui a épousé Madeleine de France, veuve de Ladislas, qui est mort très rapidement. Gaston est mort dans un tournoi également en France, mais il avait eu le temps donc de laisser François Phébus et Catherine, qui ont été les derniers rois de Navarre, voilà. Jusqu'à alors le roi de France Henri II, bien sûr, mort également dans un tournoi au milieu du XVIe siècle. Après, on a fait attention quand même. On peut évidemment perdre sa vie dans un jeu. Peut-on perdre son âme en proférant trop de gauloiserie? Je crois que cela n'a ému personne. Bon, oui, ce sont des interdits de l'Église, mais on les répète tellement souvent, ces interdits de l'Église, qu'on sait très bien que ce n'est pas suivi et qu'on s'amuse quand même avec tout ce qui peut être leste, si on en a envie. Je vous remercie et bonne fête.
La fête dans l'Occident médiéval, 12e-15e siècle, vous venez de suivre une conférence de Béatrice Leroy, professeure d'université, conférence enregistrée le 10 novembre 2017 au Musée basque et de l'histoire de Bayonne, dans le cadre de l'Université du temps libre de Bayonne.